Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Il y a eu un plouf, j'ai entendu. Voilà. Elle est bonne ? Elle est plutôt bonne. On va parler de natation, évidemment, dans quelques instants. Votre émission jusqu'à midi, les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marc Madio, Sarah Pitkowski. Donc, dans quelques instants, direction Montpellier pour les championnats de France de natation qui ont débuté hier. Léon Marchand exempté de ces championnats de France pour mieux se préparer pour les mondiaux. La natation peut-elle être sexy sans le roi Léon? 11h30, le dossier des GG. Dans quelques minutes va tomber la première liste du 15 de France pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de cadres vont être ménagés. Faut-il vraiment espérer quelque chose? Et puis 11h45, le débat caché. J'ai préparé un débat, mais
donc
j'ai
tu sembles très fier.
Ah, je suis très content. Je pense que ça pouvait même mériter un gros débat. Voilà, parce que je pense que vous pouvez nous emmener dans des territoires, des terrains encore méconnus. Et je pense que vous pouvez être très bon, mais GG. Voilà, je vais prendre un truc de l'actualité et on va essayer de l'étendre. Voilà ce que je peux vous dire. Ça vous plaît? Vous avez des idées?
Non.
Vous inquiétez pas. Ça arrivera donc à partir de 11h45. On va débuter cette dernière heure d'émission avec cette citation de Jean-Pierre Coff, qui a dit un jour, il n'a pas que dit, mais c'est de la merde. Il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi, chez moi, j'avais instauré une règle. C'était moi la star, pas les autres.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Bon alors, toi t'es le dauphin, comment il s'appelle?
Léon Marchand.
Ah, le voilà, il est dans la piscine.
Léon Marchand, ça va déclencher le titre olympique.
Non,
champion olympique.
Regarde Obélix, le dauphin, on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Vite, c'est bon.
Il va le faire, mais oui. Léon Marchand, champion olympique.
Il veut absolument nager contre le courant alors qu'il est si facile de faire la planche.
Léon Marchand va être champion olympique.
Il aurait pu nager deux fois plus loin.
Léon Marchand, champion olympique. L'histoire s'écrit ici ce soir.
Ce qu'on voit, c'est 10 ans de crawl et brusquement, pof, un fer à repenser.
La victoire, elle est dans la poche de Léon Marchand, de ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française. 4, et oui, 4, le signe de la main, 4 victoires, 4 médailles d'or.
Il a une nageoire atrophiée, que je sens qu'il a des difficultés à nager, je le laisse se reposer.
C'est même vrai ce qu'on dit, hein. Un seul être vous manque, tout est développé.
Pas sûr, évidemment, que Julien Richard s'extasie à ce point lors des championnats de France de natation. C'est vrai que l'ombre de Léon Marchand plane sur les championnats de France qui ont débuté hier à Montpellier. L'homme aux 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris a été exempté de ce rendez-vous annuel pour service rendu à la patrie. On en parlait dans cette émission. Et pour mieux se préparer aux mondiaux qui auront lieu fin juillet à Singapour, les organisateurs n'ont pas caché leur déception quand ils ont appris le passe-droit accordé au génie français. La musique qui fout les jetons. Et cette question: la natation est-elle sexy sans Léon Marchand? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Elle est beaucoup moins sexy.
C'est non, donc. Oui ou non?
C'est comme tu veux.
D'accord, ben, François pour un non, quand même. C'est rapide, Kofsky.
Je suis comme Christophe, c'est plutôt non.
Ah, plutôt non. Ouais. Marc Madio.
Oh, c'est pas plutôt, c'est non.
C'est non, totalement, ok. Pascal Duprat.
Ouais, c'est carrément non.
Ok, bon. Vous inquiétez pas.
On est d'accord, en fait, aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a eu le premier débat, on s'est rentré dans la gueule avec.
Ben non, je pensais que j'allais te faire sortir de tes gonds avec Pogba, mais t'es resté tapis dans l'ombre.
Non.
Ah oui, il y est encore dans l'ombre. Hein. Sur le dossier Pogba, là, il est même sous la table. Hein. Bref, avant
le
débat.
Il a du mal à tirer 3 heures, hein, Christophe. Là, on sent quand même.
C'est surtout un deuxième débat foot, là, ça l'a. Il avait entraîné la gueule.
Ah, ça l'a tué, mais. Je pensais qu'il allait exploser, mais il n'a pas explosé.
Ah, j'ai beau lui mettre du vélo et du rugby, même s'il y a un débat foot qui se cache comme ça, paf. Ah non, ça marche pas. Bref, on retrouve notre envoyé spécial à Montpellier, Julien Richard. Salut, Julien.
Salut tout le monde.
Oui, alors moi, Julien, c'est pas flipper.
Hein. Julien.
Tu fais le dauphin d'ailleurs, Julien?
Très mal.
Vas-y, essaye.
Très mal. Et mon éclaboussure, quand je fais une bombe, c'est beaucoup plus fort que ce que vous avez passé tout à l'heure.
Très bien. Voilà. Alors évidemment, Julien, c'est le grand absent de ces championnats de France. Une absence qui a froissé l'organisation, hein, faut bien le dire.
Oui, et dans les tribunes, forcément, les spectateurs ont bien remarqué qu'il manquait une silhouette sur l'affiche de ces championnats.
Léon Marchand.
Eh oui, Léon Marchand, du coup, oui, mais j'avais pris les places avant que je vois l'annonce. Donc, du coup, j'ai été un peu déçu, mais bon.
Bon, après, hein, ça restera un bon moment, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a toujours d'autres nageurs à regarder, d'autres performances. Hein. Il n'y a pas que lui, en effet. Puis bon, lui, il est un niveau au-dessus des championnats de France.
Ouais, la star de la natation a demandé et obtenu une dispense pour ces championnats de France qui sert de sélection pour les championnats du monde. Le directeur technique national par intérim qui dure d'ailleurs, Denis Auguin.
Ce sont des choix de raison et stratégiques pour permettre à Lyon d'aller jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Et ça, c'est notre priorité. Quand on a un athlète comme ça, sans pour autant tout accepter de façon désordonnée, ce qui n'est pas du tout le cas, l'idée, c'est vraiment de construire avec lui la capacité d'être de nouveau le meilleur nageur du monde.
Alors sportivement, en fait, cette décision, elle fait pas vraiment débat au bord du bassin. C'est peut-être plus dans l'ambiance générale de la compétition que son absence se voit. Johan Ndoye-Brouard, son coéquipier du relais 4x100 mètres 4 nage, médaillé de bronze à Paris.
Forcément, ça attire plus de gens quand il y a Lyon. S'il y a plus de gens, plus d'ambiance, plus de peut-être de stress, ça peut peut-être un peu galvaniser certaines personnes. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, du public, ouais, il y a peut-être un truc qui change. Plus il y a de gens, mieux c'est. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu aux Jeux Olympiques, donc ça aurait pu être un peu mieux.
Et c'est effectivement la conséquence majeure de l'absence de Léon Marchand. Les organisateurs avaient même prévu d'installer des tribunes supplémentaires face à l'effet Marchand pour passer de 1000 à 2000 spectateurs par jour, avant donc de se raviser. Philippe Jamet, président du club de Montpellier et co-organisateur.
On va être à moins 30, moins 40% en billetterie. Qu'on va finir entre moins 50 000 et moins 70 000 euros sur un budget global de 340 000 euros. Oui, conséquent quand même. Oui. On a plus de difficultés à faire venir des gens qui ne sont pas forcément du milieu de la natation. Si on avait eu notre superstar à Montpellier, il y a des gens qui seraient venus juste parce que ça leur aurait permis de voir de près la cinquième personnalité préférée des Français. Et malheureusement pour tous les autres nageurs, parce qu'ils mériteraient qu'on vienne les voir nager eux aussi. On a un plateau incroyable. Je trouve ça dommage que les gens ne viennent pas les voir et n'en aient que pour Léon.
Et hier, cette petite musique lancinante de sans Léon, moins de billetterie, ça commençait sérieusement à bourdonner aux oreilles de ses proches. Écoutez, le directeur général du TOEG, donc de Toulouse, le club de Léon Marchand, Michel Coloma.
Ça commence à être un peu usant d'entendre que tous les mots soient mis sur le dos de Léon. Léon, il a fait son choix de se préparer pour les champions du monde dans les meilleures conditions possibles. Et on sera bien content, au bout du compte, qu'il soit champion du monde, espérons-le cet été. Quand Léon est là, il y a du monde. Quand Léon n'est pas là, il y a un peu moins de monde. Mais n'empêche que quand au Stade Toulousain, Dupont n'est pas en train de jouer un match du Stade Toulousain, le Stade Toulousain fait quand même salle au comble. Donc on peut se poser, s'il n'y a pas d'autres questions à se poser que celle-là, quoi. Voilà, et si le mal vient pas d'ailleurs. Et Léon, il a fait ce choix-là, Maintenant, je ne sais pas parce qu'on ne peut pas y en vouloir. Il n'est pas maître de la billetterie des compétitions de Montpellier, quoi.
Voilà, et pendant ce temps-là, Austin, Texas, loin de tout ça, mais avec un œil sur les résultats de ses camarades de l'équipe de France, eh bien, Léon Marchand, il continue sa préparation pour les championnats du monde de Singapour qui auront lieu du 27 juillet au 3 août prochain.
Comme d'habitude, c'était excellent, Julien, d'avoir ce reportage et d'entendre les différentes parties à propos de cette exemption et de ce forfait pour ces championnats de France de Léon Marchand. Tu restes avec nous, évidemment, pour ce débat, parce qu'il s'est passé de belles choses dans la piscine de Montpellier, et tu vas nous les compter dans quelques instants. Comment vous réagissez, mes GG Sarah, à ce que tu viens d'entendre? Parce que c'est vrai que Léon Marchand, c'est la tête de gondole, mais ça, évidemment, j'ai pas inventé la lune pour le dire. Mais au final, quand on est une superstar, une gigastar, on écrase un peu tout, malgré soi, et quand on écrase tout, après, ton sport a du mal à exister si t'es pas là.
C'est le désert, hein.
Le désert peut-être pas, parce que la natation française, elle a existé ces dernières années avec d'autres. Avec d'autres stars.
Mais il y en avait plein.
Oui.
Même temps.
Mais ce que je veux dire,
Bousquet,
c'était
Bernard, Muffa.
Exactement. Mais ces gens-là, ils n'ont pas gagné 5 médailles aux Jeux Olympiques. C'était des stars, mais pas des méga stars. Là, Léon Marchand, il dépasse tout ce qu'on peut penser. Léon Marchand, c'est un Mbappé, c'est un Wembanyama, c'est un Teddy Riner. C'est-à-dire qu'il porte leur discipline, mais ils portent le sport français à eux tout seuls. C'est malheureux, mais c'est normal. Même quand on entend la personne qui organise les championnats de France dire c'est dommage que on vienne pas voir les autres nageurs. Oui, mais quand tu t'as pas d'appétence à un sport, je vois pas pourquoi tu irais prendre un billet pour voir une compétition d'un championnat de France. C'est sûr que quand t'as sur l'affiche t'as Léon Marchand. Eh ben oui, t'as envie d'aller voir le phénomène, en fait, qu'il fasse de la pétanque, là, de la natation ou quoi que ce soit. Tu viens voir le phénomène.
C'est bien là le problème.
Mais oui, c'est fait. Là le problème. Mais est-ce qu'il y a une réponse à ça?
En fait, je pense qu'il faut scinder. Il y a deux problèmes dans cette question. Il y a que la natation en France ne prévaut qu'au travers des Jeux Olympiques et puis un peu moins des championnats du monde. Autrement, ouais. ça passionne pas.
Mais la natation existe à travers
ça passionne
peu. Elle existe à travers ces championnats.
Ah, les championnats de France, ça passionne pas quand même.
Mais si, parce que c'est qualificatif pour quelque chose.
Et donc, si tu veux, Pascal, ensuite, c'est amplifié parce que il y a tout d'un coup, voilà, qu'il y a eu l'émergence d'un phénomène. Donc, t'as l'impression que ce phénomène-là, tout le monde l'attendait au championnat de France. Et s'il était venu, peut-être que, sûrement même, l'engouement aurait été important et peut-être que les prochaines années, eh bien, la natation aurait pris davantage son envol.
Voilà, mais Pascal, tu fais les championnats de France sans les faire le brin. À Montpellier, ça se remplit pas plus, en fait.
Ouais. Là où je suis pas d'accord avec Pascal, et c'est peut-être là-dessus que tu voulais embrayer, Christophe, c'est de dire que moi, j'ai souvenir de championnat de France qui était absolument hallucinant parce qu'on s'attendait pour une microseconde de savoir qui allait pouvoir se qualifier. Il y en avait qu'un qualifié, les minima hyper difficiles.
Mais il y avait un grand frisson au championnat de France parce que les championnats de France étaient reliés aux compétitions supérieures qui étaient les championnats du monde aux Jeux Olympiques.
C'est le cas.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas.
Si on marche,
il est pas là.
Mais tu gagnes ta place pour les mondiaux de Singapour parce que tu fais les championnats de France.
Mais là,
aujourd'hui. Tu vas dans la rue. Alors, qui est-ce que tu vas voir aujourd'hui? Tu vas voir Maxime Grousset. C'est peut-être le plus connu.
Manodou, mais il est pas là.
Mais Manodou n'est pas là. Il faut que Kirpichou.
Les deux stars de natation, c'est Marchand et c'est Manodou.
C'est des noms, mais il faut suivre la natation pour les suivre, ces gens-là.
Bah écoute, Loïse Boisson, tu crois qu'on la connaissait avant le début de Roland Garros ou non?
Je veux dire,
il suffit d'un exploit dans une compétition pour que d'un seul coup ton nom.
Oui, mais ces gens-là dont je te parle vont pas faire un exploit.
Si Grousset est champion du monde à Singapour l'été prochain, il deviendra une star. Et tu crois que les championnats du monde de judo, ça passionne les foules en ce moment?
Eh ben non.
Il y a ni Riner, il y a ni Agbenienou. Eh ben c'est pareil.
Et en plus, ça va être pas une médaille. Ce sont des sports olympiques. C'est là où on
touche. On touche à un sujet qui est le mal-être et la continuité de certains sports au lendemain des JO. Là, on l'a lu dans l'équipe il y a quelques jours. Il y avait un article sur les trois coureurs qui ont fait le BMX, qui ont fait les trois médailles du BMX. Et ils expliquaient leur situation et leur devenir après JO. Et là, on touche aux limites de certains sports olympiques qui sont extrêmement axés sur les JO,
en plus,
comme natation, comme le BMX ou comme d'autres sports. Et la natation souffre de sa surexposition peut-être quelque part des JO. En natation, il y a une seule échéance, c'est les JO. Là, dans d'autres sports, on est.
Et je vais vous dire un autre truc, c'est que ces petits sports, parce que ce sont des petits sports.
Oui, mais c'est des grands sports
olympiques. Existent, c'est des grands sports, mais ce sont des petits sports médiatiques. Ces sports-là existaient, mais quand tu rajoutes, Pascal, tu vois où je veux en venir,
quand tu rajoutes une compétition
supérieure qui évidemment prend une ampleur médiatique excellente et écrase le reste, tu vas sûrement pas parler des championnats de France de natation quand t'as le PSG qui joue l'Atlético Madrid dans une compétition à 100 millions d'euros. Donc évidemment, c'est exponentiel aujourd'hui. Les sports les plus médiatiques prennent de plus en plus de place, valent de plus en plus d'argent et par conséquent écrase les autres.
Et puis il y a une vraie concurrence entre les sports.
Et tu vas voir Marco que jusqu'au 13 juillet, si le PSG avance la compétition, le Tour de France ne va pas exister ou quasiment
pas. Moi en tout cas, quand tu as une Coupe du Monde,
j'ai déjà connu sur les années précédentes, quand tu as un Euro, une Coupe du Monde et l'équipe de France qui marche, le Tour on en parle, on nous laisse la place dans l'après-midi et ensuite laissez les gars, on prend les choses en main et on fait les choses sérieuses.
Je voudrais faire évoluer le débat juste et revenir aussi sur ce qui s'est passé sur cette exemption. Alors évidemment pour la billetterie c'est moins bon, c'est moins de recettes pour ces championnats de France. Pour les organisateurs c'est aussi un petit peu la soupe à la grimace. Et revenir tout de même, on entendait le coach de Toulouse, évidemment il ne faut pas tout mettre sur le dos de Léon Marchand, il n'est pas responsable de tous les maux de la natation parce que lui il a fait son parcours, il a fait son tracé et tout ça. Mais tout de même, quand tu deviens une icône, je reviens là-dessus, c'est ma marotte, mais je sais qu'on n'était pas d'accord il y a un mois dessus. Quand on devient une icône, est-ce que quelque part, vous le savez aussi bien que moi, on le dit souvent, et à un moment donné, tu t'appartiens plus. Donc les championnats de France, pour faire vivre ton sport, comme le font vivre les frères Lebrun, c'est un peu le devoir d'y être. Mais je vous remets ça sur le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi.
Je pense qu'il y serait allé si ça n'avait pas mis en péril sa préparation des championnats du monde. Qu'il y serait allé.
Il aurait dû reprendre plus tôt, ou en tout cas, il aurait dû prendre sur son repos à lui pour les championnats de France.
Il s'entraîne pas en France. Il a une vie en dehors de la France. Il a tout un schéma d'entraînement. Il vient une fois par an dans notre pays. On est très content de l'avoir de nationalité française. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un nageur français? Mais c'est un nageur qui est formé aux États-Unis, Sarah. Cocorico, on est content.
Christophe.
Il a appris à nager en France.
Attendez, il y a Julien Richard qui va intervenir.
Il a passé
Donc il veut pas dire ça.
Il est aux États-Unis, là.
Il a été formé en France.
Ouais,
exactement.
Il est devenu performant aux États-Unis. Il est allé chercher ses
Non, non, il était déjà finaliste aux Jeux Olympiques. Il était déjà finaliste et même quatrième
en 2021
aux Jeux Olympiques, alors qu'il s'entraînait à Toulouse. Et il a évidemment progressé en étant aux États-Unis. Mais c'est quand même un nageur qui est largement formé en France dans un des clubs formateurs. Les plus performants d'ailleurs en France, les Dauphins du Touareg.
Je sais qu'on en a souvent parlé avec Julien Richard de ce débat, et je sais qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord dessus sur le côté le devoir d'exemplarité. Alors j'entends que c'est pour une année. C'est, je te donne la main, Pascal. J'entends c'est une année particulière, c'est après les JO, donc pour service rendu, on fait ça. Je trouve juste que attention la Fédé, parce que on ouvre, on met le doigt sur quelque chose alors que c'était normalement indispensable de participer à ça pour se qualifier. Attention au prochain qui va gagner deux médailles aux Jeux Olympiques, qui disent pas, attendez, ça fasse pas jurisprudence.
Mais qu'il les gagne les deux médailles.
En fait, c'est compréhensible dans la piscine qu'ils peuvent se le permettre pour lui.
Pascal.
Non mais c'est compréhensible parce que comme tu l'as dit, c'est une année post-Jeux Olympiques. Mais si l'année prochaine, il avait encore un passe-droit, ça serait plutôt difficilement compréhensible. Et là, on pourrait dire que le devoir d'exemplarité est pas respecté. Voilà, donc on l'attend aussi. Après, parce qu'on après, on a envie de voir notre champion.
Et s'il dit à la Fédération Française de Natation, ok, vous voulez que je vienne chercher ma qualif au championnat de France, non, j'ai d'autres priorités. Et qu'on se retrouve sans Léon au championnat du monde ou au championnat d'Europe l'année prochaine, on va dire quoi? Non, on va baisser notre froc, de toute façon. On est obligé. Ouais, mais... quand t'as un champion comme ça, je suis désolé, tu te fais tout petit parce que attends, il représente ton sport. Et donc, malheureusement.
À contrario. Si effectivement il est pas sélectionné, il se met une épine dans le pied aussi parce que les compétitions pour Léon Marchand, ce sont les championnats du monde et ce sont les Jeux Olympiques. C'est pas un sport individuel où si tu dépends pas de ta fédération, tu peux aller t'inscrire à un tournoi de golf, tu peux aller t'inscrire à un tournoi de tennis. Là, c'est lui qui va aussi amputer sa propre carrière si l'année prochaine on lui dit si tu viens pas faire les championnats de France, tu feras pas les mondiaux. Il a besoin aussi de concourir et d'aller gagner des titres. Donc c'est
pas tout à fait pareil. Je pense qu'on a plus besoin de lui que lui a besoin de Fédération française.
Il est passé au-delà de la natation, Léon Marchand, quand même. Nicolas est avec nous au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
On t'écoute attentivement, Nicolas.
Bonjour, je voulais intervenir, je suis président de club de natation dans les Alpes-Maritimes, et là, aujourd'hui, je suis en compétition dans un autre département, à Digne-les-Bains, et j'écoutais attentivement, j'ai beaucoup d'avis, sur le plateau qui sont, on peut être d'accord et pas d'accord. En gros, nous, on va dire à la base de la natation, les bénévoles, les présidents, les petits moyens clubs, en fait, nos enfants, c'est eux qui nous donnent le là de cette histoire, en fait. Et là, par exemple, ce matin, entre deux nages, ils vont sur le, et les championnats de France qui ont commencé, ils vont sur le live, en fait, et ils vont voir qu'est-ce qu'a fait Maxime Grousset, qu'est-ce qu'a fait Henri Brouard, qu'est-ce qu'a fait Néwen Tomac, tous ces gens qui côtoient Léon Marchand en équipe de France et qui étaient au JO. Et en fait, c'est regrettable qu'ils ne soient pas là. Mais en fait, je pense que dans le monde de la natation, en tout cas nous, il y a tellement d'énormes nageurs au championnat de France actuellement. Alors bien sûr, il n'y a pas Léon Marchand, mais il y a tellement de gros nageurs. Je peux vous dire qu'ils les suivent.
Vous parlez des licenciés de natation, des gens qui font de la natation.
Oui, mais c'est un regard important.
Oui, mais c'est pas
le grand public, je veux dire.
J'entends bien qu'il y a un côté financier, un côté sponsoring, un côté. Il y aura moins de places vendues, il y aura moins d'audience télé, moins d'audience radio, tout ça, je l'entends. Mais, ça serait dénigrer et ne pas respecter les nageurs qui sont actuellement au championnat de France. Et je peux vous dire qu'il y a des énormes nageurs français.
C'est le système médiatique qui est comme ça, Marchand, malheureusement.
Je l'entends bien. Mais Léon Marchand aux États-Unis, comme a dit quelqu'un sur votre plateau, il vient une fois par an en France. Entre guillemets, son emploi du temps est timé à la minute. Tout ça fait que c'est nous qui l'avons rendu aussi star, aussi nous, le monde de la natation, les médias.
Oui, il s'est rendu tout seul, hein.
Oui, mais on l'a élevé aussi au titre de français préféré.
Il a été formé.
Mais ce que je veux dire, c'est que son emploi du temps timé à la minute, il peut quand même avoir une dérogation pour ne pas venir. Enfin, moi, Je me dis que dans son emploi, il passe aussi un diplôme, j'ai vu, universitaire de pilote d'avion. Tout ça, sa vie est rythmée complètement différemment d'un autre nageur français qui s'entraînera à l'INSEP.
Ça va pas aller forcément. Là-dessus, Nicolas, de toute façon, les GG sont plutôt d'accord avec toi, mais cette histoire de pilote d'avion, c'est pas un argument qui va faire mouche pour moi, parce que justement, je comprends encore moins. Mais bon, ça, c'est autre chose. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ton avis de licencié et d'être dans le monde comme ça de la natation. Rapidement, Julien Richard. Tout de même, oui, Léon Marchand, ok, mais c'est vrai que par exemple, Maxime Grousset a performé.
Il a battu le record de France du 50 mètres papillon. Alors, à une époque, on se dit, 50 mètres papillon, ok, ouais, super. Mais pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, ça va rentrer pour la première fois au programme des Jeux, le 50 mètres papillon. Donc, c'est plutôt pas mal. Deuxième performance mondiale de l'année. Et puis, on a des duels. C'est aussi ça qui faisait l'intérêt de ces sélections, de ces championnats de France. C'est à l'époque du sprint où tu avais des nageurs qui pouvaient battre des records, mais aussi des nageurs qui pouvaient passer à la trappe parce qu'ils étaient quatre à pouvoir se qualifier. Il n'y a que deux places. C'est un peu ça qui manque, qui fait le sel de ces sélections. Là, on aura par exemple ce soir sur le 100 mètres d'eau la finale entre Johan Hendoy-Brouard et Mewen Tomac, deux nageurs qui sont un peu revanchards comme Grousset des Jeux en individuel où ils sont un peu passés à côté entre guillemets. En tout cas, ils n'ont pas remporté de médaille en individuel. Il y a quand même Anastasia Karpichnikova, la pauvre. Est totalement éclipsée par ce qu'a fait Léon Marchand aux Jeux Olympiques et c'est bien normal, mais rendez-vous compte, elle est quand même vice-championne olympique du 1500 mètres derrière une légende Cathy Ledecky. Donc ce qu'elle a fait, c'est un exploit monumental aux Jeux Olympiques de Paris. Elle revient là dans cette piscine, elle est là et disponible pour le public aussi. Enfin voilà, c'est une grande nageuse de cette équipe de France. Donc il y a pas mal de beau monde. Il y a des parcours aussi particuliers comme celui de Marie Wattel qui revient d'une opération des ligaments croisés. Donc il y a plein de centres d'intérêt à suivre tout au long de cette semaine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce sel qu'on avait pu voir à Rennes par exemple au championnat de France où Léon, dès qu'il faisait une apparition au bord du bassin, c'était un peu l'hystérie dans les gradins.
Bon, merci en tout cas de nous avoir conté et raconté ce qui se passe actuellement à Montpellier. Les championnats de France, c'est à suivre évidemment sur RMC grâce à Julien Richard. On se retrouve dans quelques instants. L'histoire est bien faite, bon, on s'y attendait un peu, c'est pour ça qu'on a prévu ce conducteur. La liste du 15 de France, la première liste vient de tomber juste là, il y a quelques secondes. Il y a beaucoup de novices. Que faut-il espérer de cette tournée? Je vous pose la question dans quelques instants. Tournée en Nouvelle-Zélande, évidemment. On prendra toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial. A tout de suite sur RMC.
Flexion, touché, jeu.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Marc Madio, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous dans 9 minutes, très précisément, le débat caché. Un débat qui va forcément vous plaire. Enfin, je l'espère, vous ne savez rien pour le moment. Mais je suis sûr que je vais réussir à vous appâter. Mais tout de suite, le rugby.
RMC. Le dossier des GG.
Ça, c'était Denis Charvet qui tentait de faire le AK.
Coincé le doigt dans la portière.
Oui, qui s'est coincé le doigt dans la portière. C'est une tournée qui fait rêver tous les joueurs de rugby. Le 15 de France affrontera trois fois la Nouvelle-Zélande début juillet à l'autre bout du monde. Mais un 15 de France largement remanié pour l'occasion. On en a souvent parlé dans cette émission. Même si cinq finalistes du top 14 ont été autorisés la semaine dernière à faire partie du voyage. La première liste pour les premiers chanceux, c'est aujourd'hui. Pierre Thévenet est avec nous, notre spécialiste rugby. Salut Pierre.
Salut Gégé.
Et nous venons justement d'avoir cette liste de 28 joueurs publiée ce matin. Alors question très simple, qui y figure ?
Uniquement des joueurs déjà éliminés du top 14. Donc on enlève les Toulousains, les Bordelais, les Toulonnais, les Bayonnais qui ne sont pas dans cette liste. Il y a 13 nouveaux au total dans cette liste de 28 joueurs. Des noms qu'on connaît, Nolan Le Garay, Gaël Ficou, Émilien Gailleton, Mickaël Guillard, Léo Barré, des joueurs qui ont joué le dernier tour de destination. Des jeunes à fort potentiel aussi comme le Clermontois Baptiste Jonot, le Montpellierin Maël Moustin. Et puis des paris avec par exemple le Canadien de naissance Tyler Duguid, le Fidjien de Perpignan Olivier Retti et Dugui Valou qui ont tous les deux les 5 ans de résidence nécessaires. Ces 28 joueurs vont aller à Twickenham samedi prochain disputer un match amical contre l'Angleterre.
Et on en parlera dans cette émission, c'est le 21 juin prochain. Un groupe qui va forcément, Pierre, être renforcé.
Oui, lundi prochain par des demi-finalistes perdants ou d'autres joueurs qui ont été préservés cette semaine. On pense à Pierre Bourgarit ou Paul Boudéan de La Rochelle qui ne sont pas dans cette liste-là mais qui pourraient bien partir en Nouvelle-Zélande. Ce groupe-là va partir justement en Nouvelle-Zélande et seront rejoints par quelques finalistes la semaine suivante. Tu le disais, Jean-Christophe, 5 joueurs issus des clubs finalistes auront le droit de rejoindre les Bleus. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière tournée, la dernière vraie tournée telle qu'on la connaît pour cette équipe de France. Ensuite, ces tournées vont être remplacées par la Coupe des Nations à partir de la saison prochaine. Donc, on n'aura plus ces 3 matchs sur le sol néo-zélandais.
Je te connais, t'es en train de me vendre une salade.
C'est les 5 alors.
Je ne sais pas encore si elle est véritablement fraîche, cette salade, car beaucoup de stars, faut bien le dire, vont manquer le rendez-vous et les rendez-vous.
Déjà, les deux ouvreurs titulaires, Romain Ntamack, qui est toujours gêné par son genou, qui va être légèrement opéré cet été, tout comme Mathieu Jalibert, qui, selon le Midi Olympique, va subir une arthroscopie du genou également. Antonio et Aldrit sont blessés aussi. Pour les autres, il y a un mot d'ordre, c'est de ne pas tirer sur la corde des joueurs qui ont déjà eu énormément de temps de jeu cette saison. Sauf exception, tous les joueurs qui ont joué plus de 2000 minutes dans la saison, c'est la recommandation de World Rugby, ne seront pas de la partie. On enlève donc Louis Bielbiaret, Damien Penaud, Maxime Lucu, Thibaut Flamand, Thomas Ramos par exemple. Il y aura peut-être une place pour Anthony Jelonche, Julien Marchand, Nicolas Deporter. Ça, ce seraient des finalistes qui pourraient rejoindre le groupe en Nouvelle-Zélande à partir du deuxième test.
Ok, tu restes avec nous évidemment pour la discussion. C'est une information importante. Toutes les informations sur cette liste sont à retrouver sur rmcsport.fr. Christophe, quand tu entends cette première liste, il faut bien la rappeler tout de même, mais tous ceux qui vont être absents, il faut espérer quoi de la tournée?
Je sais pas. De toute façon, on s'attendait à une liste de la sorte, hein. Même s'il y a eu beaucoup de lobbying pour espérer, pour essayer de faire participer à cette tournée les stars du 15 de France, on a bien compris que c'était trop compliqué. Il y en a certains qui sont vraiment cuits aux patates en fin de saison, comme Romain Ntamack qui doit se faire opérer, d'autres qui ont trop joué. Donc, de toute manière, on ne pourra pas avoir l'équipe de rêve pour disputer cette tournée. Ce ne sera pas comme en 94 quand Philippe Saint-André et ses copains étaient allés s'imposer là-bas. Ce ne sera pas comme en 79 quand Jean-Pierre Rive aussi a été le premier capitaine à aller permettre à l'équipe de France de battre les All Blacks chez eux. Ce sera même pas comme en 2009 où Thierry Dussautoir, capitaine de l'équipe de France, était présent à Dunedin pour remporter un match. On a changé de façon de faire. La priorité, c'est le tournoi. La priorité, c'est la Coupe du Monde tous les 4 ans. Et du coup, eh bien, pour cette tournée, on prend pas les stars. Donc, on en pense qu'on en veut. Mais je pense que la plupart des grands joueurs de rugby, il leur manquera ce petit quelque chose de pas avoir été disputé, ne serait-ce qu'une seule tournée dans leur vie en Nouvelle-Zélande, au pays du rugby roi, pays du long nuage blanc, là-bas où tout le monde ne pense et ne vit que pour le rugby. Eh ben, je pense que ça restera une frustration pour les Dupont, Ramos, Bielbiaret et compagnie qui connaîtront jamais ça. Voilà, c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? Pierre, avant de rentrer, me dit, tu vas voir, on va aller les taper au moins une fois. J'espère, parce que c'est vrai que ce sont des jeunes en développement. C'est une équipe en développement. Elle a de la gueule. On a un super fond dans le rugby français. Mais je pense que les Néo-Zélandais qui faisaient déjà la gueule parce qu'on leur envoyait pas l'équipe type, quand ils vont voir les noms de cette liste, bah, ils vont un peu faire triste mine.
Non, mais cela dit, pour le grand public, je vois il y a des raisons de voir cette équipe de France à l'œuvre contre les Néo-Zélandais. La première, c'est ça va être l'occasion d'éprouver la nouvelle charte de bonne conduite. Donc déjà, on va voir si les joueurs français se comportent bien.
Ah ok, tu penses que c'est ça l'intérêt de la tournée?
Ça peut l'être. La deuxième, désolé, mais contre les Néo-Zélandais, c'est jamais neutre. Un test match contre eux, donc pour et en plus de surcroît, comme il y a beaucoup de joueurs blessés et beaucoup de joueurs qui vont être dispensés, eh bien c'est l'occasion, comme il le fait très bien pour Fabien Galthié, eh bien de faire vivre cette équipe de France et de tester de nouveaux joueurs pour voir leurs aptitudes. Donc il y a
c'est
beaucoup d'intérêt en
c'est
fait.
C'est un peu contraint et forcé.
Ses innombrables qualités, on peut quand même ne pas lui reprocher en plus de faire en sorte de tester des joueurs, et il va le faire. Donc ça, c'est très bien aussi à ce titre-là.
Oui, voilà. Il y a plein de
raisons de se lever pour regarder les Français jouer.
Oui, après, comme le disait Christophe, historiquement, ces tournées en Nouvelle-Zélande, c'était d'aller au pays du rugby. C'est comme quand tu dis à un judoka qui va aller faire un championnat du monde au Japon. Ça fait partie de ta culture. Mais les dates que tu nous donnes, Christophe, c'est bien, mais il n'y avait pas de play-off. Il n'y avait pas de barrage et pas de play-off en 94. Donc les saisons...
Il y avait moins de matchs.
Un petit peu moins de matchs.
Donc encore une fois, on est sur un calendrier qui se charge de plus en plus et de traverser la planète.
Il n'y avait pas plus de matchs internationaux, hein. C'était le même nombre.
Oui, on est d'accord.
T'en avais trois en novembre, t'en avais peut-être même un de moins parce que t'avais pas le tournoi destination encore.
Aujourd'hui, les joueurs sont disponibles. Les meilleurs Français ne sont disponibles que le week-end après les finales. Donc quoi mais, qu'il
tu
arrive.
Tu sais qu'à l'époque, les mecs jouaient leur finale. Les finalistes vainqueurs n'avaient même pas le temps d'aller faire la fête dans leur ville. Ils montaient dans l'avion. Ils allaient faire la tournée.
Non mais Christophe, à l'époque, ça ne tapait pas aussi fort déjà. Ah, et il n'y avait pas autant de matchs dans l'année. Non mais oui, Bielbiaré va finir la saison. Il aura 31 matchs et 1500 minutes.
Mais alors possible de l'envoyer en Nouvelle-Zélande. On a qu'à aller au Japon, en Roumanie, dans les pays en développement.
Pour donner du temps de jeu et tester les futurs mecs qui joueront la prochaine Coupe du Monde.
Et c'est quand même c'est quand même 2027. Hein. C'est quand même une expérience inoubliable pour ces internationaux. Ils vont emmagasiner de l'expérience.
Sous réserve de pas prendre une razzia néo-zélandaise, parce que si tu te fais écrabouiller et que.
Qu'est-ce qu'il dit qui parce que.
Non, bon, mais j'en sais rien.
Mais aujourd'hui, il y a des réserves incroyables, insoupçonnées.
Oui, mais quand t'as pas l'expérience de jouer à ce niveau-là,
certainement supérieur aux néo-zélandais.
Oui.
On est supérieur à la Nouvelle-Zélande même.
Marc Madio.
Non, mais pour ce qui est du réservoir, certainement.
À vous écouter, il me vient une réflexion. Depuis ce matin, on est dans ce studio. On a parlé des matchs en trop et de l'importance ou pas de et la ça, Coupe du Monde de club de foot. On a parlé des problèmes de la natation. On parle maintenant des problèmes du rugby. Il y a peut-être quand même une question à se poser. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la surprofessionnalisation et la surfinance, comment on peut dire, finance-dépendance du sport en général? Parce que là, on est en train de s'apercevoir qu'on crée, on recrée des événements sur les événements.
Non,
sur
mais
les
ça,
événements
ça, alors ça, événements. En rugby,
oui, mais là,
c'est
ça en fait partie, en là, le rugby. Non,
pour le cas, on en ajoute pas.
T'arrives à une situation
habituelle, ça.
Où, justement, le fait d'aller en tournée en Nouvelle-Zélande, ce qui était prestigieux par le passé, ce que tu as expliqué, Christophe. Et là, on arrive dans une situation où est-ce qu'il faut vraiment encore y aller? On y envoie avec des jeunes. Et là, j'ai écouté avec attention tout ce que tu nous as dit sur la sélection, mais c'est un charabia. Oui. Pour moi, qui ne suis pas un grand spécialiste du rugby, c'est un charabia ce que j'ai entendu. Parce que, on peut les emmener parce qu'ils n'ont pas 2000
minutes,
machin, un truc bazar. Enfin, à un moment, on est où là? Peut-être qu'il y a une réflexion générale et globale à se poser sur la façon dont le sport va se réguler, se développer. On est dans un match où on est dans un business plan pour tous les sports qui essayent de prendre des parts de marché sur le voisin. Moi, c'est comme ça.
En rugby, il va y avoir une compétition. C'est la fin des tournées.
C'est la dernière tournée telle qu'on la connaît. À partir de l'année prochaine, on aura la Nation Cup. Donc, il y aura 6 équipes de l'hémisphère nord, 6 équipes de l'hémisphère sud qui vont s'affronter une première fois l'été, puis une deuxième fois en novembre. On va essayer de
légiférer un peu ces tournées. Et donc, là, tu auras l'obligation d'envoyer quasiment l'équipe type, si tu veux performer.
Ce sera un autre débat. Exactement.
Il y a un débat caché à nous vendre, là. Donc,
on suivra, évidemment, cette tournée en Nouvelle-Zélande. Tu pars ou pas, Pierre Thévenet, en Nouvelle-Zélande?
Non.
Non, on t'envoie
je
pas.
Je reste à Paris.
Ok, tu vas suivre pour ça.
En 94, on y allait.
C'était mieux avant.
Mais parce que tu crois que si Dupont, Ramos, Bielbiaré était en équipe de France, il y serait prêt à aller. Évidemment qu'on y sera allé. Toutes les fonctions, évidemment, des stars de l'équipe de France. C'est comme là, on a hésité à envoyer Julien Richard à Montpellier. Il n'y a pas Léon. Dupont, il n'y est pas.
On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Évidemment, toutes les dernières informations rugby. Et cette première liste de 28 joueurs, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, à tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous. Il y a un bon débat.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marc Madio, Sarah Pitkowski. À partir de midi, les paris RMC, notamment autour de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Ouverture, entrée en lice des Parisiens dans cette Coupe du Monde des clubs, évidemment, vous donnera les meilleures cotes. On accueille un auditeur tout de suite. Il s'appelle Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Oui, pourquoi t'es là, Maxime?
Mais je sais pas, il paraît que j'ai une bonne nouvelle.
Ah oui, il va falloir déjà changer de téléphone, ce serait déjà une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous reparler? Vas-y Maxime, pour voir si je t'entends bien.
Est-ce que ça va mieux?
D'accord, bon, tu voulais gagner quelque chose, c'est ça?
Oui.
Bon, on n'est pas sur Skyrock non plus, hein, Maxime. Hein. Bon, bah vu que t'es là, sache que tu viens de remporter 2 places pour l'une des 2 demi-finales du Top 14 vendredi soir prochain.
Incroyable.
À Lyon, entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain. C'est vendredi soir, commenté par Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, toute la bande évidemment.
C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci.
Tu es supporter de qui, Maxime?
De l'Aviron.
Du Stade Toulousain.
Stade Toulousain. Eh bien voilà, tu vas voir les tiens peut-être se qualifier pour cette finale, cette grande finale du Top 14.
Vous allez en faire qu'une bouchée des Basques ou non?
Il faut s'améfier, mais je pense que
ils vont pas se louper les Toulousains.
Bon, bah, on est très heureux de te faire plaisir. En tout cas, Maxime, tu sais déjà avec qui tu vas y aller?
Je vais demander à mon frère s'il peut être libre, s'il peut se libérer, mais je pense que pour une demi-finale, ça devrait le faire.
Bon, bah, tu sais quoi? On va raccrocher et tu peux l'appeler tranquillement en lui disant que tu viens de remporter deux places pour demi-finale du Top 14 vendredi soir prochain grâce à RMC. Merci, Maxime, de ta fidélité et à bientôt. N'hésite pas à nous rappeler. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Le piège, un débat, vous ne maîtrisez rien, je m'occupe de tout. Mais il faut débattre. Ça, c'est votre rôle. Le débat caché du jour. C'est ça.
Certains enfants sont particulièrement doués.
Papier accélération, papier assurant, attention, papier qui sert.
Leur cerveau semble fonctionner différemment de la moyenne. Les enfants doués ont en commun des forces, mais aussi des fragilités.
On donne aussi à ces enfants l'étiquette de douance.
Quel est ce débat? Pas sûr que vous soyez encore sur la bonne piste.
T'as rien compris à ta pote là.
Tu nous prépares.
On ménage. Le suspense, le flou. C'est la révélation du critérium du Dauphiné. On en parlait hier dans cette émission. On vous faisait découvrir Paul Seixas, la pépite de 18 ans, plus jeune coureur de l'histoire à participer à cette course. Le Lyonnais était venu pour apprendre, sans objectif. Le voici sixième du général après avoir fait le match avec les meilleurs toute la semaine. Mais les amoureux du cyclisme ne verront pas tout de suite le coureur de Décathlon âgé 2 heures la mondiale. Couvé par son équipe, il ne disputera aucun grand tour cette année. Sébastien Joly, son directeur sportif.
Et au vu de ce qu'il nous a démontré sur le Tour des Alpes, il était relativement logique de le lancer dans le grand bain. Non, et c'est à 100%, il ne fera pas de grand tour cette année, il ne fera pas la Vuelta. Pour un coureur comme Paul, gardons la tête froide. Et si ça commence à s'exciter, ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher si ça commence à s'exciter, vous avez entendu. Nos génies français, Mbappé, Dupont, Wembanyama, Marchand. Faut-il protéger les prodiges? Oui ou non? Marc Madio.
J'ai envie de dire non parce que de toute façon, ils ne sont plus protégés.
Non. Pascal Duprat.
Dans un sport comme le vélo, oui.
Christophe Cessieux.
Oui, je pense que ce serait une erreur d'aligner Paul Seixas à 18 ans, un grand tour.
Ok, d'aller protéger les prodiges. Sarah Pitkowski.
Tu parles tous les sports.
Je parle, on élargit le débat. Vous pouvez me parler de Seixas, mais on élargit le débat parce que j'ai la sensation
de manière générale, non. La précocité, tu sais pas parce que tu attends que ce sera meilleur après. Mais pas sur le cas de Paul Seixas, on l'a bien expliqué hier.
Les copains, un autre prodige. J'ouvre une parenthèse, on revient sur le débat caché parce que Morgan Mori nous appelle pour les mondiaux de judo, la victoire de Gaba.
Et il remporte son premier tour face au Hongrois Daniel Zeghedi face à une salle pleine. Il a éteint la salle, Johan Benjamin Gaba. D'abord un Yuko, le plus petit avantage en judo sur Kataguruma, roue autour des épaules. Il a terminé le travail en immobilisation de la belle ouvrage pour le judoka de Chili Mazarin qui se qualifie pour le deuxième tour. Ce sera face à un Kazakh tout à l'heure, catégorie moins de 73 kilos.
Parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure, Morgan Mori. Faut-il protéger les prodiges, Marc Madio?
On parle en général dans tous les sports?
On parle en général, évidemment ciblé.
On peut toujours les protéger, mais de toute façon, quand on voit par exemple Mbappé, quand il a débuté à Monaco et qu'il a tout de suite été performant, qu'il est allé à la Coupe du Monde et qu'il a été champion du monde très jeune, de toute façon, il y a des choses qui sont assez inéluctables. Après, pour revenir à Seixas, oui, à la fois il faut le protéger, mais en même temps, on peut pas le retenir trop longtemps.
Mais
et de toute façon, il y a aussi un autre phénomène, et là, il est beaucoup plus global et général. Dans tous les sports, on est compétitif et opérationnel au plus haut niveau de plus en plus jeune dans tous les sports. Donc inéluctablement, que ce soit Seixas en cyclisme ou d'autres dans d'autres disciplines, on va forcément vers une accélération de la montée en puissance des jeunes. Aujourd'hui, un garçon qui a 18 ans, quel que soit le sport qu'il pratique, quand il arrive au haut niveau, il est beaucoup mieux formé et formaté que ne l'étaient les sportifs d'il y a 5 ou 10 ans passés.
Donc si je cible sur Paul Seixas, à un moment donné, il ne faut pas se dire parce qu'il a 18 ans, on n'en voit pas sur le tour.
Non, mais là, là, attends, il y a quand même, il y a un peu de marge. Entre dire, Paul Seixas, on l'accompagne et on le gère dans le temps par rapport à un Tour de France, c'est pas la même chose que de dire, on le met à un haut niveau de compétition, comme il est en train de le faire en ce moment sur le Dauphiné Libéré. Il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez importante à respecter. Mais il est clair qu'un Seixas, à, je sais pas, moi, dans deux ans, il sera sur le Tour ou sur la Vuelta.
Dans deux ans?
Mais oui!
Non, mais.
C'est déjà
énorme.
C'est
bien gentil, toi. Tu te rends compte ce que c'est qu'un faire un Tour de France? Non, mais c'est pas aller jouer au golf, là, à taper la baballe. C'est trois semaines dans l'école les plus dingues avec les efforts. Ce garçon, il a 18 balais, quoi. Il sort de l'adolescence. Il est encore, quand tu le revends, il est encore, t'as l'impression qu'il est pas fini.
Soit à Paris-Nice, par exemple. Une course comme Paris-Nice l'année prochaine, il y sera sans doute à Paris-Nice l'année prochaine. Mais il n'ira pas les courses d'une semaine. Il va y avoir une montée
sans la pression médiatique.
Il va y avoir une montée en puissance progressive pour lui comme pour les autres. Mais on focalise beaucoup sur Seixas, mais des Seixas dans le monde. Je parle juste pour le cycliste. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a au Danemark, il y en a en Norvège, il y en a en Espagne, il y en a en Italie ou ailleurs. C'est des garçons qui ont 18-19 ans qui sont prédisposés au très haut niveau depuis un certain temps.
Mais pour autant, ils font le Tour de France.
Comment
Pogacar, pour autant, ils font pas le Tour de France.
Mais on est bien d'accord.
Le cyclisme est un sport particulier. Pogacar, il a gagné le Tour, il avait pas 22 ans en 2020. Donc c'est donc le plus jeune à avoir gagné le Tour de France.
Mais au même âge que Seixas, il était junior encore. À 18 ans, il était junior. Il était 50e des championnats du monde, Pogacar, à la même époque.
Oui, mais il n'empêche que Seixas, il n'a que 18 ans.
Mais c'est ça, c'est un gamin. Là, il y a un autre exemple. On a vu Del Toro, là, qui a failli gagner le Giro. Lui aussi, il est tout jeune. Il est de 2003, il a 21 ans. Il a disputé un premier grand tour l'année dernière, je crois. C'était la Vuelta. Et là, ils l'ont mis sur le Giro. Mais tu vois, t'as un cheminement logique.
Ça va être la même chose pour d'autres.
Bien sûr, tu peux pas envoyer ces gamins au casse-pipe dans un tour aussi dur que le Tour de France, qui a non seulement au niveau physique, mais le Tour, c'est en plus c'est une formidable caisse de résonance. T'as les médias qui sont là tout le temps, le podium protocolaire, ils passent des heures à répondre aux trucs.
Si on sort du cyclisme et qu'on va sur le foot avec Mbappé, il est champion du monde à quel âge?
19 ans.
Est-ce qu'il a gagné le Ballon d'Or? On lui promettait 10 ballons d'or.
Enfin, il a gagné d'autres choses.
Oui, mais tu vois.
J'allais rebondir.
C'est une question
t'es dans un sport collectif.
Ouais,
c'est une question de sport parce que Lamine Yamal, en Espagne, ils l'ont exposé tout de suite. Hein. Il a 17 ans.
C'est un sport co.
Jean-Christophe, Mbappé, il a commencé en Ligue 1 à Monaco. Il avait 16 ans et demi, mais il ne jouait pas tout le temps. L'avantage des sports collectifs, c'est que tu peux.
Tu peux jongler.
Tu peux le faire en 30e mi-temps.
Tu peux les mettre à dose homéopathique et puis ensuite.
Le tour, une fois que tu rentres sur le tour, t'es obligé d'aller au bout des trois semaines. Est-ce que toi, t'as pas fait une erreur l'année dernière en mettant Lenny Martinez, par exemple, au départ du tour?
Tu veux qu'on ouvre le dossier?
Oui.
Non, on n'a pas le temps. On est dans des choses plus complexes.
Oui, c'est parce qu'il s'en allait.
Mais ça dépend.
En fait, c'était un pari. Sa participation au tour de l'année dernière.
Attends, il commence à être langue de bois, je te connais.
Je pense que ça dépend des sports. On était en train de parler de Léon Marchand. Léon Marchand, il a fait les premiers Jeux. Il avait, il avait 18 ans quand il était aux Jeux de Tokyo. Ouais,
il a un chrono aussi. La natation, c'est simple.
Oui,
t'as beau avoir 18 ans, il y a un chrono.
Mais il n'avait pas les chronos pour faire des médailles et il s'est qualifié quand même. Donc en fait, ça dépend vraiment des sports. Dans le tennis, vous avez la jeune Mira Andreeva qui perd contre Louise Boisson. Elle a commencé le circuit, elle avait 16 ans. Et aujourd'hui.
Lui aussi, il a commencé le circuit, il fait une course World Tour.
Elle joue les grands chelems quand même.
Mais en matière de cyclisme, t'as des épreuves d'une journée où tu peux très bien aligner des gamins. T'as des épreuves d'une semaine où tu peux les tester. Et ensuite, t'as les monuments qui sont ces grandes courses de trois semaines. Et le Tour de France est encore plus grand, plus important et plus sollicitant. Donc il faut y aller piano, quoi.
Sur, surtout pour un Français.
Et il faudrait demander à Cyril Guimard ce qu'il pense de ça. Cyril Guimard, il avait une pépite comme Bernard Hinault. Et ben Bernard Hinault, il a attendu qu'il ait 22 ans pour l'aligner sur le tour. Époque, et en 78, il fait son premier tour et il le gagne. Il a eu raison finalement.
Bah parfait. Bon bah attendons 4 ans alors de voir Paul Sexas sur le Tour de France. J'ai bien compris, fallait-il protéger les prodiges. Je vous ai entendu, mais GG. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci Marc, merci Pascal, merci Sarah. On se retrouvera la semaine prochaine. Le samedi à partir de 9h pour de nouveau les grandes gueules du sport. Restez bien avec nous, votre programme continue sur RMC dans quelques instants. Les paris RMC, toutes les cotes au sujet de la Coupe du Monde des clubs avec le PSG qui joue ce soir. Passez une très belle journée, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.